Chapitre 66. Quittant les montagnes, la colonne de Daran s'engagea dans la grande vallée verdoyante qui ne portait plus du tout bien son nom, la Balafre. Perché sur son cheval, Verna sonda le paysage qui s'ouvrait devant elle. Après quelques jours, elle avait baptisé sa monture Grisou, un nom à la fois descriptif et affectueux. Des années plus tôt, Richard lui avait appris à individualiser et à respecter un équidé.
« Vous croyez que nous approchons de notre destination ?» demanda Ambre. « Je n'aurais jamais imaginé que le monde était si vaste. »«
Et tu n'en as aperçu qu'une petite partie, mon enfant. » La vue était incroyable. Au fond, l'Empire d'Aran, pourtant en constante extension, n'était peut-être qu'un mouchoir de poche dans un continent d'une taille incroyable. La novice parut surprise, puis un rien sceptique, mais elle se reprit.
Dame Abbesse, je ne douterai jamais de votre parole.
Montés sur le même cheval, Oliver et Peretta regardèrent les deux femmes.
Nous devons contourner la vallée par le nord, puis nous enfoncer dans le haut désert.
Même les yeux plissés, le jeune érudit ne semblait pas en mesure de distinguer les détails.
En venant, dit Peretta, nous avons campé 8 fois entre surplomb du monde et ici, mais à cheval on avance plus vite.
Donc, conclut le général Zimmer, il nous reste 3 ou 4 jours de voyage.
Sur un terrain légèrement vallonné, les cavaliers suivirent les vestiges d'une très ancienne piste.
C'est un très bel endroit, dit Verna, sauvage et pur. La souillure du buveur de vie a presque entièrement disparu, précisa Peretta. Regardez ces prairies, ces bois, ces rivières et ces lacs. La vallée est en pleine renaissance.
Malgré tout, il n'y a pas de quoi remercier Victoria,
grommela Oliver. Au crépuscule, des myriades d'étincelles dansèrent dans le lointain. Craignant qu'il s'agisse des feux de camp d'une armée, Zimmer envoya des éclaireurs. À leur retour, ces hommes annoncèrent que des colons, un peu partout, se réappropriaient la terre et construisaient des fermes. Peu désireux d'approcher de nuit de ces campements, le général ordonna une halte.
« Si on déboule maintenant, » dit-il en grattant sa barbe en broussaille, « on flanquera la trouille de leur vie à ces pauvres gens. Attendons demain pour leur montrer que nous sommes des visiteurs, pas des envahisseurs. »
Après avoir gâté Grisou en lui offrant une pomme, Verna s'étendit pour écouter les oiseaux et les insectes nocturnes. Installés en rond, les sœurs de la lumière, contentes d'être presque arrivées, bavardèrent comme des pies. Eux aussi soulagés, les soldats jouèrent aux dés ou chantèrent autour des feux. Même s'ils appréciaient les paysages de l'ancien monde, firent remarquer certains, ils se languissaient de leur amoureuse ou de leur famille. Cela dit, explorer était beaucoup plus agréable que de guerroyer contre des morts-vivants cannibales. Bercée par le chant d'un jeune soldat qui s'accompagnait avec un instrument à cordes, Verna s'endormit paisiblement. Au matin, la colonne gagna le premier des nouveaux villages. Près d'un large cours d'eau, 10 familles avaient balisé leur territoire avec des piquets. Quand ils virent approcher des cavaliers, ces colons se regroupèrent, de l'inquiétude dans le regard. Au fil des ans, comprit Verna, ces gens avaient dû beaucoup souffrir, apprenant à leurs dépens à se méfier des étrangers. Quand il se présenta, le général Zimmer insista sur ses intentions pacifiques.
« Cette vallée est de nouveau fertile !»
dit un type barbu aux vêtements tachés de boue. Très fier, il se tenait devant un bœuf attelé à une charrue. Après avoir défriché plusieurs acres de terrain, certains villageois s'attaquaient aux semailles, pendant que d'autres débitaient des troncs pour les futures constructions.
Pendant longtemps, personne ne pouvait vivre ici, mais c'est terminé. Cette terre est parfaite et nous la revendiquons.
Les cheveux précocement gris, une femme mince aux grands yeux vint saluer le général et la dame abbesse, puis elle désigna le plus grand bâtiment en construction.
Ce sera une école. Quand nous aurons fini, des gens descendront des montagnes pour nous rejoindre.
Beaucoup ont été chassés par les dévastations du buveur de vie, dit le barbu. Mais cette vallée est notre terre ancestrale. Elle nous appartient depuis toujours.
Et personne ne vous la disputera, assura Zimmer. Sachez que l'ordre impérial est vaincu. Jagang est mort et le seigneur Ral entend que vous soyez libre de choisir votre mode de vie sans tyran ni oppresseur.
D'autres personnes approchèrent, dont 3 gamins couverts de boue parce qu'ils aidaient à ensemencer les nouveaux sillons. Tous sourirent aux soldats.
« Nous sommes en chemin pour Surplomb du Monde, » dit Verna. « Vous n'avez rien à craindre de nous. »«
Surplomb du Monde ?»
répéta le barbu.
« J'en ai entendu parler. C'est loin d'ici, caché dans des canyons. »
Il désigna le haut plateau au nord.
« Nous savons très précisément où nous allons, » dit Peretta.
Sans plus tarder, la colonne repartit. Les deux jours suivants, elle traversa plusieurs autres campements, puis obliqua vers le nord et prit la direction du haut plateau. Quand le terrain devint plus accidenté, Oliver et Peretta prirent la tête. Mais même s'ils avaient tout mémorisé, ils étaient venus à pied, ce qui changeait pas mal la donne. Partant à la recherche de routes praticables pour des chevaux, les éclaireurs revinrent avec d'excellentes nouvelles. Il faudrait être prudent dans le labyrinthe de canyon, mais c'était plus que jouable. Alors qu'ils repartaient, Verna entendit des soldats se plaindre parce qu'ils se croyaient perdus. La plupart des cours d'eau se révélèrent à sec, et les chevaux auraient bientôt besoin d'eau. Pourtant, les deux jeunes érudits ne parurent pas le moins du monde inquiets. Après la traversée de plusieurs canyons aux imposantes parois rouges, ils s'engagèrent dans un passage qui semblait donner sur un cul-de-sac.
« Nous y sommes !»
annonça Oliver. Devant lui, Peretta rayonnait.
« Il n'y a que de la roche !»
soupira Zimmer. La jeune mémoriste lui fit un grand sourire.
« Vous voyez pourquoi c'est une bonne cachette ?»
Les deux érudits mirent pied à terre et Oliver prit leur cheval par la bride.
« C'est très étroit, » dit-il. « Il vaut mieux traverser à pied. »
Quand ils eurent atteint le bas de la muraille rocheuse, Oliver et sa compagne tournèrent à gauche et disparurent. Passant devant, les éclaireurs les suivirent et annoncèrent qu'il n'y avait rien à craindre. Verna vit les trois défilés uniquement quand elle eut le nez dessus. De loin, il était impossible de le repérer. Tenant Grisou par la bride, elle suivit le général Zimmer. Après 10 pas dans l'obscurité, car la lumière du jour ne pénétrait pas dans le passage, elle déboucha dans un magnifique canyon invisible de l'extérieur. Au centre d'une vallée verdoyante, un cours d'eau serpentait paresseusement. Dans les pâturages, non loin de champs cultivés et de vergers, des moutons paissaient tranquillement. Dans les potagers en terrasse, on ne perdait pas 1 pouce carré de terre cultivable et il y en avait sur les 2 flancs du canyon. Des cris retentirent quand les paysans virent la horde de cavaliers qui entraient dans leur petit paradis.
« Là !»
fit Oliver en désignant la paroi sur sa droite. Environ au milieu de la muraille, une immense grotte abritait des bâtiments et des tours. Pour y accéder, un chemin serpentait le long de la paroi rocheuse.
« Surplomb du monde ?»
s'écria Verna.
« Oui, nous sommes de retour chez nous !»
dirent en chœur Oliver et Peretta.